Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot International sur RFI. Comme chaque jour et en ce lundi, eh bien nous allons évoquer les éliminatoires de la CAN 2019 et les surprises. Nombreuses sont les équipes vues comme favorites, hein, entre guillemets, et qui ont été tenues en échec. La liste est longue, Cameroun, RDC, Sénégal, Algérie, Gabon et Togo, qui n'ont obtenu qu'un résultat nul. Pire pour le Ghana, bien sûr, défait au Kenya, ou pour le Burkina Faso, battu en Mauritanie. Les Morabitounes peuvent commencer à rêver de leur première CAN. Victoire notable des Ivoiriens, des Guinéens et des Maliens, et des sélections mondialistes africaines comme l'Égypte, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie. Sauf donc, on le disait puisqu'ils sont dans les matchs nuls, le Sénégal. Mais son match nul s'est déroulé dans un contexte très tendu, très triste, dans un stade de Madagascar bondé où une bousculade a fait au moins un mort et de nombreux blessés. Et dans le stade de Banjul aussi, où la Gambie recevait l'Algérie, eh bien, des bousculades et des tumultes avant match ont-ils gêné les joueurs et changé les rencontres, ces tumultes et ces bousculades? Nous en parlerons dans Radio Foot. On se demandera aussi que fait la CAF pour contrôler ces rencontres, même dans des stades ou des pays, disons, périphériques. Nous ferons donc le bilan de cette deuxième journée d'éliminatoire. La fête était belle hier soir au Stade de France. D'abord parce que les champions du monde ont battu les Pays-Bas en Ligue des Nations et qu'Olivier Giroud a marqué. Il a inscrit le but de la victoire, un très beau but en plus. De quoi satisfaire le public qui était venu pour célébrer ses champions. Une vraie communion a enfin eu lieu entre joueurs et supporters. C'était le moment des joueurs, les acteurs du sacre à la baguette et au micro de vrais MC. Vous avez chanté avec eux, Dominique Sévrac?
Intérieurement, oui.
Intérieurement.
Mais je me suis levé quand même pour applaudir par exemple N'Golo Kanté, comme le public.
Ouais.
Parce que voilà, on a tous nos chouchous.
c'est le vôtre?
Notamment.
Notamment, oui, vous êtes obligé d'en avoir.
J'ai Varane et Mbappé aussi, voilà. Vous savez tout.
Notre camarade donc du Parisien qui était au stade pour assister à cette rencontre. Franck Simon, bonsoir.
Bonsoir Annie.
Vous avez plutôt regardé les Morabitounes.
Je les ai même commentés, hein, figurez-vous. C'était, ouais. Mais c'était la veille, c'était samedi après-midi, enfin en début de soirée pour nous. Bonjour à tous.
Bonjour, voilà. Franck.
Et bonjour à nos amis de Nouakchott, évidemment.
Ben oui, on leur fait un petit coucou parce que c'est vrai que on se demande si, grâce à l'élargissement d'ailleurs, hein, de la participation, mais on verra enfin cette équipe.
C'est bien parti.
Et tout le travail qui est fait en amont pour amener cette équipe à la CAN. Hervé Penaud, bonjour.
Ah oh ben moi alors j'ai vu un bonheur du dimanche soir. Mais beaucoup d'énervement durant ce week-end, ça, on va en parler.
Ouais.
Parce que cette histoire d'éliminatoire Afrique me le reste en travers de la gorge.
Ah ben, on avait commencé le vendredi en mettant un peu l'ambiance de ce côté-là, donc on va continuer. Christophe Jousset, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous aussi, vous avez regardé beaucoup l'Afrique, mais on a tous évidemment regardé aussi ce qui se passait au Stade de France. Radio Foot, c'est parti. Les Sélacantes n'ont pas seulement un lien avec la préhistoire. Voilà cette équipe des Comores capable de tenir en échec les Lions, pourtant indomptables, du Cameroun. Des Lions emmenés par un champion qu'ils ont choisi pour sélectionneur, Clarence Seedorf. Alors d'ailleurs que les Sélacantes sont dirigées par Amir Abdou. Et non Alim Bay Camara, comme cela aurait été dit apparemment par erreur dans notre émission. En tout cas, les hommes de Seedorf ont longtemps été menés à la marque avant d'égaliser en fin de partie, un but de Baoken pour le score final de 1-1. Écoutons Jean-Alain Boumsong, qui fait partie du staff, comme on dit, avec Seedorf, au micro de Anziza Mchangaba.
Contrôle relativement difficile, hein, parce qu'on sait que cette équipe comorienne peut être très très bonne à domicile. Elle a déjà effectué un bon résultat ici contre le Ghana et elle a bien préparé la rencontre et on a eu quelques difficultés en première période et on a bien rectifié le tir et en seconde période. C'est une pelouse qui était difficile. C'est vrai qu'on aurait voulu commencer par une victoire. Moi, c'est une mise en place. Il y a un nouveau staff qui est là. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Mais un match nul au regard de la seconde période qui a été de meilleure facture et laisse entrevoir de meilleurs résultats dans l'avenir, surtout si les conditions pour travailler sont bonnes et propices à exploiter les talents qu'il y a dans cette équipe.
Alors, il faut sans doute être optimiste, mais c'est forcément décevant, Hervé Penaud, que les champions d'Afrique en titre soient tenus en échec, même si c'est des bons Comoriens classés au 149e rang de la FIFA.
Oui, enfin bon, le discours comme je là, sais bien que les classements, les classements n'ont pas tellement de sens. Comores, à la rigueur, là où ils peuvent vous embêter, c'est à domicile, évidemment, sur un terrain qui est d'un autre âge, faut pas l'oublier. Mais j'ai trouvé quand même cette équipe du Cameroun très très faible. On pouvait espérer que sous l'impulsion de Seedorf, parce que maintenant c'était sa première aussi pour lui, jouer gros, c'était important qu'on le voit. Alors c'est vrai très qu'il n'y a important. Pas la qualification en jeu, donc il y a moins de pression, mais qui montre quelque
mais
chose.
Mais c'était pas un match amical non plus. Il y a eu une petite polémique autour de ça, mais parce que ça peut compter au final dans le classement du groupe.
Oui, mais enfin eux, ils s'en moquent, parce que de toute façon ils sont qualifiés, ils sont pas là en train de décerner les
statistiques pour les autres que ça compte.
Pour les autres. Et force est de constater quand même qu'il s'est à peu près rien passé. Ils ont été d'une faiblesse, les Camerounais. Ils s'en sortent sur un but dans les dernières minutes, à 10 minutes de la fin, sur une petite erreur, même une grosse erreur du central qui laisse passer la balle. Bauken a pris un très beau but, il y a rien à dire, Langevin. Mais il s'est rien passé dans ce match. On a vu par exemple un Choupo-Moting qui a absolument rien fait, qui a été placé côté gauche.
Le joueur du Paris Saint-Germain.
Le joueur du Paris Saint-Germain. Voulu par Thomas Tuchel.
Exactement.
Qui a connu à Mayence.
Et j'avais déjà dit que Seedorf, il fallait qu'il fasse attention à une chose, c'est que j'ai l'impression qu'il amène des principes européens. Lui, il voit le foot africain comme un Européen qui débarque. Il va falloir qu'il comprenne qu'il y a des spécificités dans le football africain. Il va falloir maintenant qu'il comprenne tout ça, qu'il fasse une bonne mayonnaise. Attention, c'est sa première sortie, il faut surtout pas le condamner, ça n'a rien à voir.
Il faut laisser un peu de temps quand même.
C'est la moindre des choses. Et puis, il faut maintenant à lui de comprendre les choses, les mécanismes, faire sa vraie équipe et non pas un groupe qui lui a été donné, parce qu'il y a certains joueurs, il les connaissait même pas. Ça veut bien dire qu'on lui avait quand même soufflé quelques noms au moment de faire sa liste. Donc aujourd'hui, pour lui, ce qui est important, c'est de comprendre un peu mieux les choses, les rapports qu'il y a dans le groupe, les qualités que certains joueurs pourront lui apporter. Et parfois, puisqu'il avait dit, faut pas jouer en Chine, vaut mieux pas jouer en Chine ou dans les pays exotiques, il va se rendre compte qu'il y a des joueurs qui sont dans des pays dits exotiques et qui peuvent beaucoup apporter sur les terrains africains parce qu'on cherche parfois d'autres qualités. Mais ça, il va l'apprendre à l'usage. Là, c'est quand même une première difficile.
Et puis, c'est un staff qui se connaît pas, Hervé. D'habitude, parfois, on arrive avec des hommes qu'on ne connaît. Seedorf, Boumson, la connexion,
Mais là, il avait Kluivert, parce que Boumson est quatrième.
D'accord, mais il est quand même là, donc c'est des gens aussi qui doivent apprendre à se connaître. Il n'y a pas de connexion, c'est pas qui Stéphane Didier Deschamps, quoi, qui se connaissent depuis des années.
Tout à fait.
Donc tout ça va me demander du temps.
Oui, absolument. Mais on a une CAN dans moins d'un an. Franck, vous avez plutôt envie de parler des Lions ou des Selacantes?
Laissez la compte.
Évidemment, non. Je vous connais.
Je pense qu'on a fait le tour de la question concernant les Lions indomptables.
C'est pour ça que je lance.
Voilà, ils étaient pas très bons déjà au mois de mai. Alors comment voulez-vous qu'ils soient bons avec un nouveau sélectionneur qui vient de les prendre en main? C'est ce qu'on a dit l'autre jour, Hervé. Ils ont été vraiment très mauvais à Beauvais contre le Burkina Faso. Sans surprise, la copie qu'ils ont rendue à Mitsamiouli était pas bonne. Et tant mieux aussi pour cet encadrement et pour cette équipe. Ils ont, je pense, entre 8 et 10 matchs pour trouver la bonne formule, c'est l'objectif. Ce qu'on leur demande, c'est d'être performant aussi quand il y aura la phase finale au Cameroun à partir de septembre 2019. Pour revenir au Selacantes, au poisson préhistorique, ils avaient un de préhistorique. Ils ont marqué en plus par leur homme but, par Fardou Benamouane, qui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade. On commence un petit peu à le connaître, ce garçon. On sait qu'en sélection, voilà, il est souvent très adroit. Après, c'est une équipe dont on sait depuis 4-5 ans, depuis qu'Amir Abdou est là, qui a énormément progressé. Alors, le classement FIFA, moi, je le mets de côté parce que on sait que c'est une équipe qui a accroché de nombreuses équipes. On parlait du Ghana, mais en d'autres temps, ils ont accroché aussi le Burkina Faso, qui était finaliste de la CAN 2013. Ça, c'était à Martigues, au tout début du règne d'Amir Abdou. Et il y a de nombreux Comoriens, de jeunes binationaux, entre la région parisienne et Marseille, parce que c'est les deux pôles, en fait,
absolument,
où vous trouvez les communautés de Comoriens. Ben, ces garçons-là, ils n'ont qu'une envie, c'est aussi rejoindre cette équipe nationale pour honorer le maillot et aussi, pourquoi pas, se qualifier pour la première fois pour une phase finale de Coupe d'Afrique. À 24, c'est possible. On a envie d'y croire avec eux et il faut saluer ce résultat. On dit pas le contraire. Mais
c'est un groupe quand même.
T'as mené pendant plus d'une heure au score, plus d'une heure,
exactement,
contre le Cameroun. Et c'est super encourageant. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais du terrain de Mitsamiouli, qui est vraiment un synthétique pourri.
Ouais, première génération.
Voilà. Mais il est mauvais pour les deux. Et il y a très peu de joueurs locaux dans cette équipe des Comores. C'est beaucoup des expatriés. Donc pour eux aussi, c'était compliqué. C'est pour ça qu'il faut aussi, je pense, mettre en avant leur performance, tout autant qu'on met en avant les difficultés des Lions indomptables.
Christophe, un petit mot.
Les Comores, en fait, pour l'instant, sont derniers du groupe.
Ouais, c'est leur premier point.
Mais ça ne fait que commencer, finalement, parce qu'on est au tiers du parcours. Le Malawi a 2 points de plus que les Comores, et dans ce groupe, le Cameroun
les
est qualifié
battus,
d'office.
Parce qu'ils les ont battus lors du premier match.
Ouais. Alors, la règle, quand même, faut la rappeler, si jamais le Cameroun termine dans les 2 premiers de ce groupe, c'est le seul groupe, évidemment, où il y a cette règle-là. Dans tous les autres groupes, on prendra les 2 premiers. Eh bien, si le Cameroun fait partie des 2 premiers, ce sera l'autre qui sera
donc c'est une chance supplémentaire qualifié. pour les Sélacantes.
Oui.
Autre match nul sur lesquels on peut s'arrêter, il y a celui du Gabon quand même, à domicile, 1-1 face au Burundi, qui a lui aussi mené au score pendant un moment. La RDC qui fait match nul au Libéria, le Togo limité lui au 0-0 par son voisin le Bénin. On pensait que pour le deuxième match, ces équipes on va dire se lanceraient à l'assaut des points, parce que c'est quand même que le deuxième match, mais il y en a que 6 aussi.
Oui, alors si j'en crois ce que j'ai lu sur le Gabon, alors qu'on était en train de dire la semaine dernière que c'est tant mieux, peut-être que le Gabon allait retrouver une espèce d'unité, de communion autour d'Aubameyang, etc.
Qui a marqué.
Apparemment, ça a été une nouvelle fois un désastre. Donc l'entraîneur, alors ça, par contre, je me le suis fait confirmer, l'entraîneur arrive au dernier moment, parce que le problème, c'est qu'il ne sait pas où le Gabon.
L'espagnol Cabacho.
Ça rappelle un peu Luis Hernandez avec la Guinée quand il débarquait au dernier moment.
Donc il ne sait pas où se trouve le Gabon, alors on lui dit certainement le Gabon, c'est à peu près là. Il faut y aller, mais il y a un match là-bas, je vais y aller.
Il a 2 matchs en plus, parce qu'il a un amical contre la Zambie en plus.
Disons qu'il a joué ce premier match en arrivant au dernier moment. C'est pas lui qui a fait la liste. Hein, c'est le directeur technique national, portugais aussi, qui a fait la liste.
L'ancien grand joueur.
Et puis après, il se retrouve avec ses joueurs. Finalement, c'est un bordel sans nom. Paraît-il, il n'est pas payé depuis 6, 8 ou 9 mois. Alors, ça dépend des sources. Donc, ça fait qu'il n'est pas payé. Il vit pas au pays. Donc, à un moment, il faudra aussi que le Gabon se regarde dans une glace, prenne des décisions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser...
Sérieusement.
Et puis surtout, il y a des dirigeants quand même dans cette fédération. À un moment, ils veulent se faire ridiculiser comme ça tout le temps. Ils avaient voulu développer un championnat professionnel. C'est parti à volo. Ils avaient voulu mettre en avant le football local. Ils avaient même, rappelez-vous, amené le Brésil pour l'ouverture.
Pour l'ouverture du stade de l'Amitié.
Ouais. C'est-à-dire montrer que le football devait être un élément vecteur pour cette population.
Enfin, souviens-toi aussi, ils n'ont même pas fait le tour éliminatoire pour le CHAN. Ont déclaré forfait il y a quelques mois. Ils auraient pu être présents au Maroc. Ils n'y étaient pas.
C'est pour ça, justement. C'est pour montrer que le football
qui devait être un négatif actuellement.
Pour ça que c'était montré que le football, qui devait être un vecteur aussi pour la jeunesse gabonaise, dans un pays qui a eu quand même beaucoup de difficultés ces derniers temps, post-électoraux, hein, mais pour montrer que ce football-là, aujourd'hui, il part droit dans le mur. Apparemment, Aubameyang serait reparti, il n'est même pas resté pour le deuxième match. Donc, enfin, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Je pense qu'à un moment, il va falloir que les autorités aussi se penchent sur la question, se disent qu'il y a quand même quelque chose à faire, d'autant plus qu'on sait qu'Ali Bongo est fanatique de foot.
On se souvient de l'embellie en 2012, lorsque la CAN avait eu lieu au Gabon, et où il y a eu une vraie effervescence.
C'était une embellie, provisoire. Et là, on parle effectivement du retour avec ce but de Pierre-Emerick, parce qu'il a égalisé, il faut pas oublier. Les Panthères étaient menées par un but
aussi.
De Saïdo Beraino.
Il y a beaucoup de points communs
sur cette naturalisation il
n'y
a pas longtemps. Ce que fait le Burundi au Gabon, c'est pas rien. Je veux dire, ils n'ont pas forcément la qualité humaine, sportive que peut avoir le Gabon avec tous ses expatriés. Et ils sont en train de construire une équipe nationale. Ils sont dans un début de dynamique. C'est un très bon point qui est pris par les hirondelles du Burundi.
Et le Burundi est deuxième de sa poule, donc ça va. Les affaires sont plutôt bien engagées pour le moment. Alors le petit Beraino, là, c'était sa toute première sélection avec l'équipe du Burundi. Il a joué presque une cinquantaine de matchs dans les catégories de jeunes en équipe d'Angleterre. Ça y est, pour de bon, cette fois, il fait partie
des
hirondelles.
Ouais. Il met vraiment un très très beau but. Il met toute la défense gabonaise.
Stoke City, attaquant
de Stoke City. Et ça, c'est très encourageant. Ça peut donner envie aussi à d'autres joueurs de pays dont on pense qu'ils sont vraiment très très bas dans le classement continental, de rejoindre. C'est le cas pour les Comores, c'est le cas pour la Mauritanie, c'est le cas aujourd'hui pour
la RCA
Centrafrique, absolument.
Christophe, on avait dit dans Radio Foot que ce Togo-Bénin pouvait être important pour cette équipe et que ça se jouerait sans doute entre ces deux équipes dans ce groupe.
Logique.
Dos à dos.
Logique, puisqu'il y a l'Algérie, donc a priori.
Il y a une place qui est prise.
L'Algérie va confisquer un des deux.
Ils sont bien partis.
On peut imaginer.
Et le quatrième larron, c'est la Gambie. bon,
embêtant chez eux, mais
on voit que finalement l'Algérie a eu aussi des problèmes. On va en parler.
On va y venir. Hein.
En Gambie, mais c'est vrai noir. Que ce Togo Bénin qui se termine par un 0-0 fait surtout pas les affaires de l'équipe de Claude Leroy, parce que ça fait un petit point en deux matchs.
Ils ont quand même, ils ont un petit point. Vous avez raison. Ouais, c'est le Bénin en revanche qui s'en tire beaucoup mieux.
Ouais. Pour Michel Dussier, c'était un match important. Hein.
Le retour.
Et c'est vrai que pour le Togo, ça va être compliqué aujourd'hui. Mais enfin, il reste encore 4 matchs. Il y a de quoi voir. Ils ont encore la possibilité de se rattraper. En plus, c'est pour le coup, c'est le vrai derby. Hein. Enfin, c'est vraiment le combat des voisins. Donc, ils sont aussi capables de faire un coup au Bénin. Donc, pour moi, ce groupe, rien n'est joué. On connaît en plus l'expérience de Claude Leroy. Donc, à suivre.
Je sais pas si t'as vu Hervé, mais je pense que nos amis, comme auditeurs qui ont suivi la rencontre, ont dû voir ça. C'est quand même mieux de jouer du football sur une vraie surface, une surface jeu. Voilà, le stade de Kégué, il est en réfection, le stade national. Alors du coup, ils ont joué au stade municipal de Lomé, là où il y a les matchs de Ligue des Champions. On a vu la Estogoport, mais honnêtement, c'est une surface très compliquée.
Très compliqué, c'est pas le terme.
C'est horrible. C'est horrible. Tu tombes, tu te fais une escalope.
Dominique, en Ligue des Champions, il y avait 12 000 places. Coupe de la Ligue, il appelle ça des champs de patates, c'est ça?
C'est ça.
Hein, en France.
Bah, c'est champs de patates, ça, c'est plutôt un. C'est plutôt un truc qui vous racle. Voilà, tellement un vieux synthétique qu'on en a plus, nous.
Et le stade était plein, 12 000 places, 2 heures avant le début. Enfin, c'est pareil, mesure de sécurité très limitée.
Grosse pression pour. Mais c'est vrai que c'était un derby. Alors, il y avait de l'intensité, mais ça n'a pas été non plus une très grande rencontre. Mais ça fait
Que c'était des voisins.
Ouais, ça fait le jeu des écureuils du Bénin.
Ouais. Et Claude Leroy, en fait, c'est un peu ce que disait Hervé. Il dit rien n'est joué, c'est vrai. Bon. Il y a encore les deux tiers, si le début n'est pas idéal, évidemment. Alors le mois prochain, il y aura la double confrontation, les troisième et quatrième journées, et ça va être pour le Togo face à la Gambie. D'abord
les
à domicile.
Les fameux matchs miroirs.
Ça va être intéressant pour le Togo. Il faut pas oublier qu'ils avaient fait déjà un très bon premier match en Algérie. Ça s'est joué un peu. Ils ont eu deux trois occasions en deuxième période, notamment par Adebayor qui avait failli marquer un but. Donc non, je pense que ça reste quand même un groupe serré, même si les Algériens ont pris une petite option. Mais enfin, deux matchs. Rien n'est fait.
Franck, la RDC, match nul au Liberia.
Compliqué, mais même s'ils avaient ouvert la marque. Après c'est pas évident. Pourquoi? Parce que vous avez quand même Florent Ibengué, qui est à la fois le sélectionneur national depuis pas mal d'années, et c'est aussi l'entraîneur de V-Club Kinshasa, et il est en quart de finale de la Coupe de la Confédération. Donc on peut imaginer,
on voyait qu'il se déplaçait entre les deux.
Oui, c'est-à-dire qu'il a laissé son club à Raoul Chungu pour gérer le match qui arrive tout de suite là, dans quelques jours. Il y a ce quart de finale aller, mais en même temps il va pas affaiblir son club qui prépare un rendez-vous important pour l'équipe nationale. Et à côté de ça, il avait un secteur offensif qui est plutôt bien étoffé, même si je crois que Bakambu n'était pas présent. C'est quand même compliqué.
Il y a eu une drôle de polémique autour de Bakambu, d'ailleurs, son arrivée, sa non-arrivée. Lui explique, parce qu'on, d'une certaine manière, il y a eu un problème administratif.
Il est en Chine, lui aussi.
Lui aussi,
c'est avec son passeport.
C'est un problème de passeport. Mais bon, ce qui m'a fait plaisir, c'est voir que c'était Elia Meshak, je crois, qui a marqué le
but. Voilà.
Donc lui, c'est un joueur que j'aime bien depuis le Chan, pas le dernier Chan, mais le Chan d'avant 2016.
Ouais, il a mis un beau but avec un rebond qui a trompé le gardien, mais le Liberia a encore beaucoup à faire pour progresser. C'est pas le Liberia qu'on a connu du temps du président George Weah, quoi. Aujourd'hui, ils ont des joueurs, mais c'est moins. Je sais pas si tu te souviens, Dominique, quand on avait tous ces Libériens qui évoluaient dans notre championnat de France, D1, D2, à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ça.
Il n'y a plus grand-chose.
Les vainqueurs de cette deuxième journée, évoquons-les, Mauritanie, Mali et Guinée. Les trois équipes qui étaient sur
et la Côte d'Ivoire.
Ah oui, la Côte d'Ivoire, c'était important. La Côte d'Ivoire, c'était important.
Non, mais le point commun entre Mauritanie, Mali et Guinée, c'est qu'ils sont tous à 6 points.
Oui, ils ont pris
avec la Tunisie, ça fait 4 équipes. Enfin bon, ce sont les 4 équipes qui pour l'instant font un sans faute.
Ce qui est sûr, pour la Guinée, c'était important. Ça a été difficile contre la Centrafrique, ça se joue il y a un seul but
Mais comme ils avaient gagné en Côte d'Ivoire,
mon ami Sega Diallo m'a dit qu'il y avait une ambiance phénoménale.
T'as pas vu les images?
Le stade était plein, archi plein. Alors J'étais lors de Guinée-RDC, je peux vous dire que c'était déjà chaud, mais il m'a dit à côté. Là, c'était.
Deux heures avant,
c'était archi plein, il y a une super ambiance. Alors, c'est pas un résultat exceptionnel en soi, mais c'est bien déjà. Et puis, 6 points, la double confrontation contre le Rwanda, elle va être très très intéressante. S'ils peuvent s'en sortir avec une victoire, un nul, je pense que là, ils auront acquis leur billet
attendons
pour le Cameroun.
Voir,
mais attendons de voir, ce sera pas facile. Mais... Et puis, c'est super de voir même notre ami Naby Keïta qui revient au pays comme
là,
ça.
C'est Konkolé qui a marqué, c'est Seydou Bassouma qui a marqué ce but, le but unique de la rencontre. Et ce que j'ai bien aimé, c'est bien que tu parles du public. Eux aussi, en Guinée, à Conakry, ce week-end, non, je crois que c'est même vendredi, on a Oroya contre le Herli du Caire. Donc c'est un sommet, c'est un quart de finale aller de Ligue des Champions. Et moi, j'aimerais bien que tous ceux qu'on a vus hier au stade, et les images étaient fabuleuses, j'aimerais bien que ce public revienne vendredi pour pousser le Oroya. Parce qu'a priori, contre le club africain du siècle, le Herli du Caire de Patrice Carteron, ça va être très compliqué. Et on connaît la passion des Guinéens, alors on les attend.
Du monde, moi. Je pense qu'il y aura
mais
du monde.
Mais il n'y en a pas eu beaucoup dans les matchs précédents, donc là, on espère.
Là, on l'attend, ce match-là.
Christophe, peut-être le Mali.
J'étais encore sur la Guinée. En fait, l'ambiance était tellement belle que il en avait plein la voix. Raoul Savoie aussi, le sélectionneur.
Oui, j'ai entendu ça. Effectivement.
Qui disait Raoul Savoie, le Suisse.
C'était pour jouer des matchs comme ça qu'il aimait.
Il aimait son métier. Super pression, oui.
Voilà, donc le Mali, oui, le Mali, ça se passe bien parce que le Mali a gagné son deuxième match et est allé s'imposer 3-0 au Soudan du Sud.
À Juba, le petit stade de Juba. On pensait qu'il jouerait sur terrain neutre parce que c'est un stade qui est vraiment limite. Mais bon, le Mali est déjà allé à Juba et le terrain était, je crois, plus ou moins inondé. C'était il y a quelques années, ils sont revenus, c'est 3-0 avec Marega, je crois qu'il y a Marega, et Salif Koulibaly, le défenseur central du Herli du Caire qui a marqué, qui est en pleine forme, qui marque but sur but.
Mais il marque but sur but
en ce moment.
Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que les Maliens, parce que ça paraît simple de jouer au Sud-Soudan, et c'est vrai que c'est pas une grosse équipe, faut quand même reconnaître, c'est déjà une des dernières équipes qui a intégré.
2011, c'est très récent, et vu le contexte en plus.
Ils sont rendus le match facile, et on sait très bien qu'en Afrique, c'est compliqué, on l'a vu avec l'Algérie, en Gambie notamment.
Ouais. Le Soudan du Sud, pour le moment, ils ont marqué 0 but. Ils en ont fait 6.
C'est capital. C'est le plus faible.
C'est la grosse cote.
Les Bright Stars,
comme on les appelle.
Franck, les Morabitounes, vainqueur et vainqueur en plus du Burkina Faso. 2-0.
Ah là, je vais te dire dithyrambique, mais on n'a pas beaucoup de temps, mais grande victoire.
Là, il va faire une demi-heure, là.
J'ai eu la chance de les commenter, c'est pour ça. Et quel plaisir.
J'ai la chance d'aller voir où ça se déroule, tout ça aussi.
Oui, on y était, en décembre dernier. Et c'est vrai que là, c'est une victoire qui a été bien construite, où ils ont dominé la rencontre de la première à la dernière minute. Ils marquent deux buts en première mi-temps, ils auraient pu en mettre d'autres après. C'est vrai que les étalons étaient privés. Leur secteur offensif était franchement
affaibli.
Très affaibli. Il n'y avait pas les frères Traoré, il n'y avait pas Aristide Bansé qui est en rééducation, Hassan Bandé qui est en Belgique, qui était absent, Préjus Nakulma qui vient juste de reprendre avec le Paris FC. Bref, c'était compliqué, mais en fait, c'est les étalons aussi qui leur ont rendu la partie facile avec de grosses erreurs défensives, notamment le premier but, qui est une erreur de Hervé Kofi, le gardien des étalons qu'on connaît, qui avait été un des héros de la CAN 2017. Ouais. Il joue tellement peu, il a fait une relance totalement foirée, et ça a permis en fait au Mourabitoun de marquer. Et puis ensuite, les joueurs de Corentin Martins se sont lâchés devant les 8000 spectateurs du stade.
Mais quand on marque un but en général,
c'était un très bel après-midi.
Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir tout le travail en profondeur. C'est surtout ça qu'il faut pointer. Voilà, c'est ça. Dans cette fédération,
la formation,
installation, travail de fond avec Corentin Martins, parce que Martins
aurait pu être directeur technique espagnol aussi qui bosse.
Mais Martins aurait pu être viré, le fait de ne pas avoir qualifié l'équipe. Il y a certaines fédérations qui ont dit tu n'as pas réussi, etc. Lui, il a expliqué qu'il y a un certain niveau de joueurs. Malheureusement, ils n'ont pas non plus des grands joueurs. Ben, il a travaillé sur le fond, sur le collectif, et petit à petit, et puis là, le fait qu'il y ait cette augmentation à 24 équipes pour la prochaine CAN, c'est un plus, et ça peut permettre effectivement Morabitoun d'aller enfin en Coupe d'Afrique des Nations.
Mais toi, tu parlais de la formation et tout. Il y a un directeur technique national espagnol qui est là depuis plusieurs années. T'as les U20 qui ont été à 90 minutes de se qualifier pour la CAN en Tanzanie. Hein, les U20 de Mbaïba.
Mais c'est lié à président de la fédération.
Exact, le président Ahmed Diaya.
Qui a une vraie vision sur le football qu'il veut dans son pays.
Il y a de la continuité. Voilà. Et puis même les clubs. T'as le club de Nouadhibou aussi qui a sorti en début d'année en Coupe d'Afrique, l'Africa Sport d'Abidjan. Il y a quelques années en arrière, un club mauritanien qui allait sortir un club ivoirien. De l'importance de l'Africa, ça serait pas arrivé. Aujourd'hui, il y a ça.
Mais à l'époque, il y avait du football en Côte d'Ivoire.
Ouais, et puis.
De club, j'entends.
Annie,
de club.
Vous vous souvenez quand on était allé visiter l'académie.
Exactement.
Avec Oumar Ndiaye, dont le frère joue, c'est le défenseur central, Bakary Ndiaye, d'El Jadida.
Il y a un travail.
Il y a un gros travail. Et vous avez des garçons qui sont actuellement en Espagne. Le latéral droit, il est en Espagne. Le latéral gauche, il est en Espagne. Ça veut dire maintenant, ils ont des joueurs dans des championnats importants.
Donc en fait, quand le sélectionneur bosse, qu'il y a un bon directeur technique, la formation est mise en avant, ça marche. Et quand ils sont parachutés et qu'ils font n'importe quoi, eh ben il n'y a pas de résultat.
Mais le directeur technique national,
Dominique,
c'est important.
Fait une conclusion.
Non, mais il a résumé tout raison, parce que mais le directeur technique national, c'est pas le fait qu'il soit espagnol, portugais. Oui. On l'a dit avec le Gabon, c'est un Portugais qui connaît le football. Non,
c'est simplement pour le Gabon.
C'est travailler de manière intelligente, et puis laisser la main aussi au sélectionneur, et puis avec un président qui fait bloc avec son sélectionneur. L'exemple de type, c'est l'équipe de France quand vous avez le Graet et
voilà, c'est ce que c'est ce qu'on dit pour l'équipe de France, la réussite, l'Allemagne repart à zéro avec des jeunes, voilà, c'est cet éternel recommencement de après un échec ou après un succès, on en vient aux mêmes conclusions.
Mais faut vous voyez Annie, il faut quand même confirmer derrière début octobre, les Mourabitoun vont à Luanda en Angola. Ça passe aussi par un bon résultat là-bas pour espérer se qualifier, quoi. Ça, c'est important pour eux.
On reviendra demain sur les mondialistes, comme on les a appelés, ces équipes qui ont gagné, Égypte, Nigeria, Maroc, Tunisie, et on évoquera aussi le Ghana demain. Mais revenons quand même sur ce point noir dans cette journée. C'est ces deux matchs qui ont eu lieu dans des contextes très tendus, très compliqués. Alors certes, les matchs se déroulaient l'un à Madagascar. C'est quand même le pays du président Hamad, hein, le président de la CAF, et l'autre se passait en Gambie. Mais résultat, eh bien, ça a été compliqué. Alors d'abord, pour ce qui est de Tananarive, on voulait évidemment là-bas sur place encourager l'équipe nationale, les Bareas, les Zébus malgaches. On voulait aussi voir Sadio Mané et les autres. Eh bien, résultat, le score était de 2-2, mais avec quand même des tumultes avant le match. Écoutons quand même le résumé de ce match.
Attention, la frappe de Colombie.
Du Sénégal.
Quel but de Moussa Konaté, quel missile.
Et
quel
but du Sénégal.
De Konaté.
Et le Sénégal mène 1-0 ici à Madagascar.
Attention à Dax, le nouveau joueur des Kaizers Chiefs.
Dax
et la sortie de
malheureusement.
L'égalisation de l'équipe malgache et la joie du public du stade Mahamasina de Konan.
La contre-attaque sénégalaise. Keita Baldé, il a deux options. Et là, il va frapper.
C'est le but.
Il vient
le but de Keita Baldé. Sénégal 2.
Bravo.
Madagascar 1.
Comme vous le savez, on commande ce match sans
fin
de match. C'est difficile.
Attention.
Le but de Kalidou Koulibaly.
On ne peut pas faire ça.
Kalidou Koulibaly qui marque contre son camp.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a un manque de communication, il me semble.
Un manque de communication, un manque de concentration totale.
On a essayé de faire un bon match, mais les conditions étaient très très difficiles. Et voilà, maintenant, c'est dommage qu'on n'ait pas gagné ce match. Je pense que ça, c'est aux gens de le faire, mais voilà, on est quand même énervé par rapport à ce qui s'est passé.
Kalidou Koulibaly, qui a malheureusement marqué contre son camp. Le contexte de comment se déroule ce match, et ça doit être la même chose pour les Algériens qui étaient en Gambie, avec des matchs qui commencent une heure à une heure et demie en retard. Alors, les tumultes, savait-il ou saura-t-on réellement ce qui s'est passé autour de ce stade? Parce qu'on dit un mort, il y en a peut-être d'autres. Est-ce que ça influe aussi, du coup, sur tout l'événement?
Ah, mais évidemment que ça influe. Alors, c'est deux cas de figure très différents. Parce que les Algériens voyaient ce qui se passait, ils voulaient pas jouer. Donc, ils sont revenus s'échauffer, puis à un moment, les arbitres sont arrivés, ils disent, ah, on joue! Ils étaient en train de s'échauffer, ils disent, bon, allez, mettons, on joue une heure et demie plus tard, donc ça n'avait aucun sens. Les Sénégalais n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé. Ils ont même été surpris qu'il y ait une minute de silence, et il a fallu qu'à la fin, on leur dise, il y a eu un mort avant le match, donc eux, ils savaient pas ce qui s'était passé. Et ils ont jamais eu un sentiment d'insécurité pendant le match. Mais ce qui s'est passé à Madagascar et en Angola et en Gambie, c'est absolument scandaleux. Alors, je veux bien qu'à la CAF, on essaye de nous expliquer qu'il faut des standards, mettant des nouveaux standards pour le football africain, et je suis le premier à le reconnaître, mais on ne peut plus accepter de telles dérives. C'est inadmissible. J'ai des gens du quotidien Record, qui est le grand quotidien sportif sénégalais Record, qui m'ont expliqué qu'il y aurait 8 morts, parce qu'ils ont quelqu'un encore sur place et qui allait voir dans les hôpitaux ce qui peut se passer.
Il y a des images assez troublantes.
Donc, ce qui se passe, c'est inadmissible. On peut plus laisser ça. Alors, il faut arrêter de dire, ah, c'est le folklore du football africain. Il n'y a pas de folklore. Quand vous allez au stade et vous mourrez, il n'y a pas de folklore. Quand vous allez au stade et qu'une famille endeuillée, il n'y a pas de folklore. Quand vous allez au stade et qu'il se passe des choses comme ils sont passées, c'est absolument scandaleux. Ce qui s'est passé en Gambie, et le jour où vous avez un joueur algérien ou gambien, d'ailleurs, hein, l'un des deux, qui sera poignardé parce que vous avez un supporter sur le bord de touche qui est énervé parce qu'il a raté un pénalty et il viendra et donnera un coup de couteau, on dira quoi? Pourtant, on a obligé les Algériens à jouer. Je sais que les conditions étaient difficiles parce que dire aux gens qui sont dans le stade, même s'il y a 10 000 personnes de trop, leur dire faut mettre en faut partir, c'est aussi compliqué à gérer. Donc,
c'est
ça, qu'à un moment,
le problème, c'est que le commissaire est obligé de prendre une décision.
Mais à un moment, c'est que la CAF doit être responsable. Pas de tout. Attention, je veux juste une chose sur la Madagascar, par exemple. Parce que ce qui se passe à l'extérieur du stade, évidemment, que là, ce sont aussi les autorités politiques du pays. Quand vous gérez des flux et des afflux.
Oui, mais
quand
on a vendu trop de billets ou quand on a laissé passer.
Et puis dans le stade, mettons, c'est aussi à la CAF et à la fédération compétente de gérer tout ça. Et quand c'est un tel j'allais dire bordel, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est le terme exact, et ben à un moment, il faut trouver des responsables. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des responsabilités qui soient établies et qu'il y ait des sanctions qui soient prises. Il est inadmissible, inadmissible qu'on puisse rejouer à Madagascar, il est inadmissible qu'on puisse rejouer en Gambie pour les prochains matchs.
Mais les sanctions, elles vont arriver, Hervé. De toute façon,
avec la CAF, tout est possible. Everything's possible.
Vous pensez que la fédération malgache et la fédération gambienne peuvent sortir indemnes
J'espère que l'émission permettra aussi d'avoir du poids pour que, effectivement, que ce soit pas. Moi, j'ai rien contre les Gambiens ni les Malgaches, hein, loin de là, heureusement. Mais à un moment, on peut pas accepter que des gens soient morts en allant à un match de football.
Franck. La CAF, pardon, Annie.
Oui, Dominique.
Elle est aussi placée sous l'égide de la FIFA. Oui. Et j'entends jamais les présidents successifs de la FIFA, aujourd'hui Infantino, parce qu'il s'est exprimé sur ce qui s'est passé. Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que la FIFA, c'est quand même une organisation assez puissante? Est-ce qu'on n'est pas en droit d'avoir un avis, un regard, un point de vue de la part d'Infantino plutôt que il s'exprime toujours pour augmenter les compétitions à plus de participants, mais dès qu'il y a un souci, c'est lui ou un autre, ou Blatter, c'est la politique de l'autruche et on les entend pas. On les entend quasiment jamais sur le football africain. Alors Blatter, il avait plutôt de la cote en Afrique, mais Infantino, il y a officiellement un mort, je l'entends pas.
Franck, sur les résultats finalement, ces deux matchs nuls, tant pour les Sénégalais sur le score de 2-2 que les Algériens qui font 1-1, il y a un but en 36 secondes après le but algérien des Gambiens. Est-ce que c'est des résultats aussi qui sont obtenus finalement dans un contexte très particulier? Les joueurs sont un peu otages?
Je dirais pas otages, disons qu'ils sont... non, otages, ils étaient...
Comme dit Hervé, en même temps, annuler le match, c'est compliqué.
Mais là encore, les deux matchs sont différents,
oui,
parce que d'une part, à Madagascar, vous avez un terrain qui est cerné par un grillage.
Il y a un grillage.
Donc il y a des centaines, des milliers de spectateurs qui sont au niveau de la pelouse, mais derrière un grillage. Oui, donc d'où le fait que les Sénégalais ne se sont pas sentis en insécurité, alors que les Algériens, c'était tout à fait différent, puisqu'à Bakao, en Gambie,
on a repoussé le
ils étaient de l'autre côté de la piste d'athlétisme. Voilà. Des milliers de spectateurs debout ou assis,
ça peut
dont on
ne peut une
pas
menace.
Prévoir le comportement
ça peut représenter une
en
menace.
Cas de mauvaise décision arbitrale. Ou
de tacle. À un moment, j'ai vu quand Mandy est venu tacler le joueur gambien, je me suis dit d'un seul coup, les gens sont énervés. Si attention, vous êtes joueur, bon, faites attention. Il va falloir prendre ses précautions. C'est-à-dire que de temps en temps, il vaut mieux laisser un adversaire que de faire une mauvaise faute.
On attend dans tous les cas de figure, et vous avez tous raison de le souligner, que la CAF prenne des sanctions. C'est pas des mesures, hein, c'est des sanctions, tout simplement, et qu'elle soit exemplaire dans le cas de Madagascar, puisque c'est le président, puisque c'est le pays du président Hamad, que lui-même est un homme politique important, on le sait, président du Sénat, etc. Donc, à un moment donné, il peut pas laisser passer ça. Ça doit être exemplaire. Et de toute façon, certainement que les autres présidents de fédération lui diront, président, écoutez, vous avez demandé à ce qu'on soit comme ça, faisons-le, exécutons les mesures qui sont prévues. Moi, j'ai regardé le match, et très honnêtement, il a fallu que je voie la dépêche de l'agence France Presse pour comprendre qu'il y avait un drame qui s'était joué quelques minutes avant le coup d'envoi. Quand j'ai regardé le match au stade de Mamassine, je n'avais pas le sentiment qu'il y avait eu de...
Il y avait quand même une heure de retard.
Une heure et demie de...
Non, sur la Gambie.
À Madagascar, on a commencé à l'heure.
À l'heure. À Madagascar, on a commencé à l'heure.
En Gambie, on a commencé avec une heure et demie de retard.
Mais sur le match qui s'est joué à Mamassine, au stade, où il y a cette rencontre sur ce terrain difficile. Vous regardez le match, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, mais qui est pas en tribune, qui est assis, qui est massé derrière les fameux grillages. Dit quand même, là, il y a pas 22 000, hein. Là, il y a au moins le double. Donc, c'est un problème. Et on se dit, effectivement, est-ce que les grillages vont résister? Mais le public était plutôt bon enfant, content. Voilà, et il n'y a pas eu de,
la chance,
il y a pas eu de violence,
La chance, c'est parfois le déroulement des matchs.
Oui.
Le scénario fait que, et puis c'est vrai que le peuple malgache n'est pas réputé pour sa violence. Ouais. Donc, mais on sait jamais. On sait jamais. Tout peut se produire à un moment.
C'était plus dangereux sur le contexte de Bakao, de la Gambie.
Ah, oui.
Et on comprend que le président Reddine Zetchi, le président de la fédération algérienne, à un moment donné, soit interrogé. Que les joueurs soient interrogés, que Jamel Belmadi, dont c'était le premier match, se soit interrogé. On joue pas. Ils n'ont pas vraiment eu le sentiment qu'on leur laissait le choix. Maintenant, on attend des sanctions très rapidement.
Mais le problème, c'est que du point de vue des Algériens, ce n'est pas aux Algériens de décider de jouer ou pas. C'est le commissaire de la CAF, du match, qui doit prendre la décision.
Quand le commissaire, il prend aucune décision. Au moment, faut le pousser. Dire, mais à un moment, est-ce qu'on peut jouer dans ces conditions? Mais je le disais bien, il y avait des mauvaises solutions. Parce que ne pas jouer, ça, c'était compliqué aussi.
Faut arbitrer entre deux risques.
Ah oui, exactement.
On y reviendra de toute façon sur ces éliminatoires à la CAN 2019. Oui.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
C'est pas mal la petite célébration. Moi, j'étais pas au courant, mais bon, on s'est adapté.
Il est petit, il est gentil, il a stoppé Léo Messi. Mais on sait tous, c'est un tricheur, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté.
Magnifique. Exceptionnel.
Didier Deschamps, exceptionnel, du haut niveau. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Annie, bonjour messieurs, bonjour tout le monde.
Vous étiez avec Dominique hier soir au stade. On laisse plus parler Franck et Hervé. Non, c'est Dominique.
Quelle affaire. Antoine se soit habillé parce qu'il était torse nu pendant le direct. Il était bien
tout,
toutes les couleurs.
Dites-nous tout, Dominique.
Non, mais c'était incroyable. Il avait la tête à l'envers. C'était fou. Ouais.
Et ben, c'est normal. Ils sont champions du monde de football, ces joueurs. Et champions de l'ambiance. On vient de l'entendre, de sacrés ambianceurs, comme on dit, notamment du côté de l'Afrique, ces joueurs de l'équipe de France. Ils sont surtout jeunes, c'est peut-être ça l'atout. En tout cas, hier soir, la fête leur était dédiée. Une grande banderole sur la pelouse clamait champion du monde. Et c'est vrai que c'était, on avait l'impression de le sentir, que cette aventure en Russie était autant une aventure sportive qu'humaine. Écoutons la joie de Blaise Matuidi, un peu fatigué.
Je voulais rester jusqu'au bout, moi. J'en ai profité, ça c'est peut-être une fois dans ma vie. Donc voilà, je voulais profiter jusqu'au bout. Franchement, c'est un moment qui restera gravé. Je pourrais le montrer à mes enfants, mes petits-enfants. Voilà, j'ai demandé les vidéos, là. J'ai demandé déjà dans le vestiaire. Voilà, c'est des super moments. On est très heureux. Bien sûr, il fallait gagner avant. On l'a fait dans la difficulté, certes, mais on l'a fait. Et ce soir, on a vécu un grand moment de communion avec le peuple français. On attendait ça depuis cette victoire. Et voilà, on l'a eu enfin. Et on est vraiment fiers et honorés parce que c'était un honneur justement de recevoir le remerciement de tout un peuple.
Blaise Matuidi, donc il est un peu fatigué par cette fête, par le match aussi sans doute.
Dominique aussi quand je le vois.
Dominique, ils ont une super cote de popularité. Tout le stade les ovationnait hier soir.
Ouais, et puis c'est une soirée parfaite en fait. Il y a un match avant que vous réussissez à gagner et à dominer plutôt joliment. Il y a eu des critiques sur le jeu des Bleus. Là, c'était plutôt un match plutôt abouti. Et voilà, les gens ils sont frustrés parce qu'il s'est passé le 16 juillet le retour à Paris avec une descente des Champs-Élysées bâclées, sans doute sur commande de l'Élysée qui voulait son image au journal de 20h assez rapidement. Donc voilà, il y avait cette frustration-là depuis un mois, depuis 8 semaines.
Ils n'avaient pas pris le temps non plus de venir saluer les irrésistibles Français dans le stade Loujniki, vous vous en souvenez, hein, avec le trophée, la sortie de l'aéroport, il y avait eu pas mal de ratés, on va dire.
Voilà, mais ils avaient quand même salué les gens qui étaient sur les bords d'autoroute, partout, sur la 1, quand ils sont arrivés à Roissy le 16 juillet. Mais c'est vrai qu'il y avait eu quelques ratés, là, c'était l'occasion enfin de communier. J'en ai parlé à des Espagnols, ça leur a rappelé un peu ce qui était passé en 2010. Donc voilà, on a peut-être aussi acquis cette culture-là de savoir fêter les titres joliment parce que ils ont rendu cette fête joyeuse et légère. Moi j'ai assisté à des cérémonies de remise de médailles, de coupes. C'est souvent
c'est plutôt à Cannes pour le cinéma.
C'est souvent fatigant, plombant. Et là ils ont rendu ça vraiment très sympa. On avait envie de rester. C'était ni trop long ni trop court. Ah, c'était vraiment parfait, quoi.
Antoine, c'était la jeunesse au pouvoir.
Ouais, évidemment. Bah,
ils étaient derrière hein, cette organisation. Les joueurs, on sentait.
Oui, ils étaient allés frapper
pattes, hein,
à la porte de Noël Le Graët pour dire, pour insister justement, faire comprendre qu'ils avaient été extrêmement frustrés, comme tout le monde d'ailleurs, le 16 juillet, et qu'ils en voulaient plus et que ils réclamaient leur part de fête et que c'était l'occasion là, ce match au Stade de France, dans une enceinte qui avait été décoré exprès pour, vous parliez du tifo qui prenait les deux tiers du terrain, champion du monde, mais il n'y avait pas que ça. Dans les tribunes, il y avait les deux étoiles qui avaient été dessinées dans une des tribunes qui était en face de nous. À droite, il y avait la date, le 15 juillet 2018, et puis à gauche, le trophée qui était tout ça dessiné dans les tribunes. Donc tout le monde, c'était vraiment, que ce soit au niveau de la décoration, au niveau, on avait fait venir Magic System pour chanter Magic in the Air qui avait accompagné les Bleus pendant toute la compétition.
Allez, allez, allez.
Si Antoine, il était fou avec ça. Il chantait.
Jusqu'au moment où on entrait dans le
studio. La contribution ivoirienne à l'émission française.
Entre autres, il y en a eu d'autres.
C'est l'amitié franco-ivoirienne.
Voilà.
Guillaume Bloca, il est très réactif.
Bien sûr. Magic System, c'est toute sa vie.
Il y a surtout pas eu d'excès.
Puis Asalfo, la voix d'Asalfo.
On a vu Didier Deschamps donner la collade à chacun de ses joueurs un par un, puisqu'ils sont rentrés tous un par un sur la pelouse. Et puis on a vu surtout Noël Le Graët qui s'était mis en retrait. À l'entrée, à la sortie du tunnel, certains joueurs sont allés le saluer au moment de passer, mais il s'est fait extrêmement discret. Il a laissé le staff et les joueurs profiter totalement de ce moment qui était.
C'est du showbiz tout ça. Justement,
c'était authentique.
Vous y croyez, vous plongez la tête dedans.
Des groupes qui vivent bien, j'ai entendu ça.
Ça y est, les groupes qui vivent bien.
Ça fait 20 ans que j'entends ça.
C'est du showbiz, Dominique.
Mais non. Pour une fois, c'est vraiment vrai. Pour une fois, c'est vraiment une invention humaine.
Si c'est du showbiz, c'est bien fait et c'est tout à leur mérite.
En quoi c'est faux? En quoi c'est toc?
Je sens pas le truc. Autant il y a rien à enlever à leur victoire, à leur succès qui a été bien construit, qui a une belle aventure, qui part de... Mais pour moi, je sais pas, ça ne sent pas le truc. Je le sens pas. Après, vous êtes auprès d'eux.
Mais ils adorent N'Golo Kanté quand la chanson les fait marrer.
Ben c'est bien.
Mettre en avant N'Golo qui déteste ça parce qu'il veut rester.
Vous verrez. Je le souhaite pas, mais très certainement qu'à un moment donné tout ça va se lézarder dès les. Pour l'instant, tout va bien, tout est beau, les deux étoiles. Voilà, mais ça va se lézarder.
Ah oui, ça, c'est la vie,
profitons.
C'est la vie humaine, ça.
C'est ce que je vous dis.
La rédaction de France Football que tu peux sûrement pas voir.
Ça n'a rien à voir. Et vous, aux Parisiens.
Ah non, Parisiens, t'aimes tout le monde. Par contre, tout le monde n'aime pas.
Ça, c'est vrai.
Voilà.
Dominique Neisner, oublié.
Ah bah oui, l'image a été redressée à partir de 2013 avec le barrage retour France-Ukraine dans un stade de France qui était beaucoup plus festif du point de vue chant et tout, mais voilà, l'image elle est redressée depuis à peu près 5 ans avec Deschamps qui a largement contribué à ça, même s'il y a eu l'histoire de la sextette.
L'avenue des Champs-Élysées.
Voilà, même s'il y a eu la sextette de Valbuena, la mise en examen de Benzema, deux joueurs qui ne sont plus en équipe de France depuis 2015.
Mais
même s'il y a eu cet accro.
Ces moments tendus.
L'image aujourd'hui.
C'est dans l'époque des amours, ça.
Ouais, donc voilà.
Des amours en un seul mot.
Voilà, exactement. Aujourd'hui, ça se passe bien. Toutes les cotes de popularité explosent. Lloris est un des plus aimés. Mbappé est un phénomène incroyable.
Mais on a l'impression, enfin, moi, j'étais pas au stade, j'ai vu ça devant la télé, et j'ai adoré. Franchement, j'ai trouvé ça même émouvant. Même carrément émouvant, parce que il y avait une fraîcheur, une gentillesse.
Hervé est assis
un
à côté
bonheur.
De Franck.
Alors, Franck, il comprend pas,
Tu plonges, mon pauvre.
Je pense que pour Franck Simon,
c'est le groupe Magic System qui vit bien.
Exactement.
Et même quand l'autre groupe là que je ne connaissais pas qui a chanté après la joie où on jouait
Gédrin.
Avec chacun dansant, faisant sa petite démonstration de danse. Moi, j'ai trouvé ça génial. Franchement,
Ils ne t'ont pas vu danser.
Ah, c'est vrai que je leur ai peut-être donné 2-3 leçons à Mathieu.
Mais alors, quand même,
il danserait bien, Mathieu.
Dominique et Antoine, vous aviez écrit un script parfait hier soir. C'est-à-dire que non seulement il y avait la fête qui était plutôt réussie, mais en plus, on a eu un match. Hein, Antoine, c'est qui de vous deux qui a écrit le script là pour le scénario parfait? Parce qu'on a un but.
Dominique les connaît bien mieux que moi, donc je pense que c'est lui qui a écrit.
Mais qui donne le but de la victoire? C'est quand même génial. C'est Olivier Giroud.
Le premier buteur, c'est le dernier buteur en Russie. Et le deuxième buteur, c'est Giroud qui a pas marqué depuis 10 matchs. Franchement, c'est comme vous dites, c'est un scénario qu'on peut pas l'avoir écrit, Antoine et moi, parce que il est. on va nous dire, Franck Simon va nous dire, c'est de la guimauve.
Dominique, Franck est en train de me dire. Le pire, c'est que tout le monde s'est pas rendu compte, mais c'est même pas Giroud qui a marqué le deuxième but, ils plongent tous.
Ça prolonge cette fête qui avait commencé évidemment au moment de la finale, et cette image de l'équipe de France à qui tout réussit et qui réussit tout, même une simple fête, même une simple célébration de Coupe du Monde, c'est quelque chose. Alors peut-être que ça va pas durer, Franck Simon, peut-être que au moment du Ballon d'Or tout le monde va se déchirer.
Il y a des gens qui se marient et qui divorcent, hein.
Mais sur le moment, c'est des choses qui sont importantes à vivre pour un groupe. Ça va peut-être se lézarder dès les prochains matchs amicaux quand ils seront plus 23, parce que il y en a certains qui vont arrêter. Mandanda a bientôt passé la limite d'âge, même s'il va pas prendre sa retraite tout de suite, mais il sera peut-être plus convoqué. Il faudra trouver des successeurs à Giroud, à Matuidi, qui ont eux aussi dépassé la trentaine. À ce moment-là, ce sera intéressant de voir comment on reconstruit ce groupe. Mais ce groupe-là, indéniablement, vit bien.
Mais en plus, Deschamps, si vous êtes liés à vie, c'est vrai. Ils sont liés à vie, que dans le bonheur comme dans le malheur.
Et il sait de quoi il parle.
Mais ben, évidemment, il le
joue. Je vous entends, Dominique, ne vous fâchez pas.
Non, mais c'est, je
vous me regardez avec des gros yeux, mais j'ai rien contre cette équipe et je vous ai dit bravo.
Pour une fois qu'il n'y a pas une volonté de communication derrière, pour une fois que c'est vraiment une bande de jeunes qui s'éclatent avec Paul Pogba en chef de meute, qui ambiance tout ça, pour une fois qu'ils sont vraiment rigolards, qui sont sympas, qui donnent pas une image de milliardaires obsédés par le gambling, qu'ils sont et qu'ils font, hein, il suffit d'aller sur leurs réseaux sociaux, hein,
ils n'ont pas montré grand chose pendant les vacances.
Bourboule, hein, ils vont à Miami,
ils ont été discrets pendant les vacances.
Mais voilà, pour une fois qu'il y a
Dominique aussi, aux États-Unis.
Il se passe quelque chose de sympa. Je trouve bizarre de vouloir leur ramener à la com. Le service marketing de la fédération est complètement dépassé.
Mais ce qui est très drôle dans l'affaire, c'est pour dire que le service marketing est dépassé, c'est que finalement le joueur qui a atteint un taux de popularité invraisemblable, c'est le joueur dont personne n'aurait imaginé une seule seconde qui serait cette star absolue, qui est Kanté, encore plus que Mbappé. Il y avait Kanté, Mbappé...
Et lui ne doit pas tweeter ni écrire sur Instagram. C'est purement sportif sur le terrain.
Est-ce qu'on connaît son voix d'ailleurs, à
l'applaudimètre hier soir, c'était Kanté tout en haut. Juste en dessous, il y avait Mbappé, et puis...
C'est un petit gars du coin aussi, Antoine Grenier, vous le savez. C'est un petit gars du coin. Hein, c'est un petit gars de la région parisienne. Il a fait beaucoup. Il est très aimé en fait aussi. Il y a un public, bien sûr, il y avait un public qui est venu de province pour les fêter. Mais c'est un garçon qui est extrêmement.
Ça dépasse le cas qu'il soit de Paris ou pas de Paris, parce que c'est l'humilité.
C'est
l'humilité.
Est-ce que c'est pas une image de la France qu'on a envie de voir? Est-ce qu'il n'est pas en train d'incarner quelque chose de nous? Ah, il faut s'interroger, Franck, au lieu de dire on plonge.
C'est pas ce que je cherche.
Dominique, sociologique derrière.
Dominique, c'est vrai que
pour N'Golo Kanté,
je regarde pas ça. Je regarde plus les matchs qu'autre chose. Après, sur la dimension.
D'autres dimensions avec N'Golo Kanté là.
Certainement.
Et ouais, c'est une histoire de France qu'on est en train de raconter
peut-être,
avec un petit bonhomme là, des Hauts-de-Seine. C'est passionnant. Observez.
On est plutôt réunis pour parler de football. Voilà. Donc après, si ça dépasse
le cadre,
tant mieux.
Le foot, c'est pas que du foot.
C'est ce qui a marqué la France durant l'été, France. Exactement. Ça a dépassé les passionnés.
Je vous entends, Annie. Quand il y a
20 millions de gens dans les rues, c'est pas des fans de foot.
C'est juste une petite question sur laquelle on reviendra évidemment dans les prochaines éditions. Mais c'est quand même ce passage à vide de l'équipe de France. Parce que pendant un moment, on s'est demandé si le scénario serait parfait. Il y a eu un moment de flottement.
Il reste humain, Annie. Hein.
C'était quoi? Flottement, suffisance, indolence?
Pour moi, c'est les jambes. C'est les jambes, à un moment donné, qui n'ont plus, parce que ce sont les...
Ouais, mais quand il a fallu accélérer...
C'était pas les mêmes que le match d'avant, non, Dominique?
Si, ce sont les 11 mêmes.
Contre l'Allemagne, ils étaient déjà...
Ce sont les joueurs qui ont repris plus tard avec les Croates, les Belges et l'autre demi-finaliste, les Anglais. Mm-hmm. Donc voilà, ces quatre pays-là ont des joueurs qui ont une préparation un peu tronquée. Et à un moment donné, vous le payez, surtout à trois jours d'intervalle. Jeudi à Munich, c'était compliqué, parce que l'Allemagne avait besoin de gagner ce match. Joachim Löw est en difficulté. Et puis voilà, les Pays-Bas aussi, ils sont toujours en éternelle reconstruction. Eux, j'ai l'impression que c'est sempiternel. Et donc voilà, il y a eu un match de foot à un moment donné. Et les Pays-Bas, ils n'ont rien à secouer, hein, qu'on soit champion du monde. Hein.
Mais les Français ont accéléré quand il fallait, c'est ça?
C'est pas 8 semaines sans se voir qui allait changer cette équipe. C'est une équipe qui est capable de profiter de la moindre erreur, et c'est ce qui s'est passé sur le but de Mbappé, avec une erreur défensive dont Matuidi profite parfaitement.
C'est ce qu'ils ont fait pendant la Coupe du Monde.
C'est une équipe qui est capable d'encaisser des buts. On l'avait vu contre l'Argentine, où elle est capable de se faire rejoindre.
Même en finale contre la Croatie.
Et puis ensuite de se réveiller. Donc elle a joué hier soir exactement, cette équipe de France, comme elle avait joué pendant la Coupe du Monde. Et c'est peut-être ça aussi qui a participé à la magie de l'instant.
Quelle
belle chute!
Allez, vous chantez, vous chantez pour terminer, ça, messieurs. Merci beaucoup. Allez.
Antoine Grenier.
Et puis aussi David Finzel et Guillaume Ploquin. Merci à tous pour cette émission et on se dit à demain.